Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquet derrière le micro, heureuse d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et en ce début de semaine ensoleillé, ça fait du bien. Je débute avec une question. Est-ce que vous faites de la visualisation dans votre quotidien, peut-être pour vous aider avec certaines tâches ou lorsque vient le temps, peut-être d'accomplissements qui demandent de la performance, de la concentration, de maîtrise de soi. On a souvent entendu parler d'artistes ou peut-être plus souvent d'athlètes de haut niveau qui utilisent la visualisation afin de favoriser leur performance, que ce soit sur scène ou encore lors de compétitions sportives. Et il y a eu des études à cet effet, notamment dans le milieu sportif, à savoir que l'imagerie mentale améliore concrètement les résultats sportifs de 30 %. On va en parler en deuxième partie d'émission avec notre chroniqueur Nils Oliveto, à savoir comment la visualisation peut favoriser la performance chez tous les sportifs, que ce soit des sportifs de haut niveau ou encore de la relève. Et également, vous rappeler, vous dire que c'est bel et bien parti pour le 33e défi sportif Altergo, un événement dont on vous parle depuis quelques jours ici au Canal M. Ça débutait pas plus tard que ce matin, un événement de renommée internationale qui est majeur pour le sport adapté. Ça réunit des milliers d'athlètes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Autant des athlètes de niveau, de haut niveau, là, des athlètes, oui, professionnels, mais également de la relève, dont près de 4000 jeunes d'une centaine d'écoles partout au Québec et aussi de centres de réadaptation. Et pour un jeune qui vit avec une limitation fonctionnelle, j'avais envie de savoir comment on se prépare à un événement comme ça avec toute la fébrilité et le défi aussi que ça occasionne. J'en parle à l'instant avec Manon Charron, elle qui est physiothérapeute au Centre de réadaptation Le Bouclier de Terrebonne. Bonjour Manon.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Grosse semaine pour vous en ce défi sportif.
Oui, ça commence aujourd'hui, effectivement, la grosse semaine.
Et voilà. Manon, tout à l'heure, j'étais là ce matin au Centre Claude Robillard, je parlais avec l'un des organisateurs qui disait, et je trouvais ça assez juste, le défi pour ces jeunes-là, ces 4000 jeunes, c'est à l'année. Et il racontait l'anecdote d'une jeune fille qui, tout de suite après sa compétition, avait dit, OK, c'est quand le prochain? C'est quand le prochain défi, elle était déjà prête. Donc, toute l'année, vos jeunes y pensent à ce défi sportif Altergo.
Oui, les jeunes y pensent. Puis quand ils participent pour la première fois, ils sont un peu nerveux, ils n'osent pas trop venir parce qu'ils sont pas habitués de faire du sport en général. Ils voient leurs frères, leurs sœurs le faire, mais eux, c'est plutôt rare qu'ils puissent participer. Mais aussitôt qu'ils ont participé pour la première fois au défi, là, ils veulent revenir à chaque année, là, ça c'est certain.
Donc, ça crée une certaine dépendance.
Ah oui! On est bien heureux de ça, en fait.
Maintenant, vous êtes physiothérapeute, donc je le disais, comment la physiothérapie peut aider ou favoriser la préparation des jeunes pour le défi sportif?
Bien, en fait, la physiothérapie en pédiatrie, on travaille beaucoup. Quand on est en bas âge, on travaille les déplacements, la marche, les escaliers, la course. Donc, quand l'enfant est rendu d'âge scolaire puis qu'il a développé ses compétences un petit peu plus moteurs, bien là, à ce moment-là, ça vient raffiner tous ses acquis moteurs. Donc, la physiothérapie, on travaille les sauts, la course, l'équilibre, l'endurance. Mmh. Donc, le défi sportif est très bien placé pour eux.
Ouais. Bon, le profil des jeunes que vous accompagnez, ça ressemble à quoi?
Les jeunes qu'on a, moi je suis en déficience motrice, donc c'est des jeunes, la plupart sont marcheurs, mais parce qu'ils sont intégrés dans les écoles régulières. Donc à ce moment-là, c'est des jeunes qui sont capables de suivre le profil académique régulier. Fait que c'est des jeunes, on a des adolescents, là, on a deux équipes. Okay. On a une équipe d'adolescents là, de 7 jeunes entre 12 et 16 ans, puis eux, c'est des handicaps moteurs, soit une hémiparésie, c'est une paralysie d'un côté, la diplégie qui est plus au niveau des membres inférieurs ou des maladies neuromusculaires. Puis on a aussi des jeunes de niveau primaire. Là, on a 17 de la région de la Nausière-Sud. Puis eux sont entre 5 et 8 ans.
Okay.
puis on participe à l'athlétisme pour nous. Ça fait notre 7e année qu'on participe.
Wow! Oui. Maintenant, comment ça se passe? On est peut-être plus habitué à entendre parler de l'encadrement, bon, dans le cadre d'une école avec les cours d'éducation physique, que ce soit dans une école dite régulière ou spécialisée. Comment ça se passe dans le cadre d'un centre de réadaptation? Est-ce que les jeunes sont référés par leur enseignant ou encore par leur pédiatre?
Non, bien, pour le défi sportif comme tel, là, c'est tous des jeunes qui sont suivis ici au bouclier,
okay,
qui soient suivis de façon active par des différents professionnels ou qui viennent à la clinique de physiatrie. Donc, c'est tous des jeunes qu'on connaît. Puis à ce moment-là, c'est nous, les intervenants, qui faisons la référence là, pour qu'ils viennent au défi sportif.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça. Donc, la préparation se fait soit dans les thérapies, quand on les voit toutes les semaines, donc on prépare le jeune en thérapie, ou sinon, quand le jeune est seulement vu en physiatrie, à ce moment-là, on implique soit le parent ou l'enseignant d'éducation physique là, pour qu'il puisse pratiquer tout ça avec le jeune.
Vous les voyez une fois par semaine pour ça?
Oui, la plupart du temps, là, les jeunes qu'on voit en thérapie, on les voit une fois par semaine, puis là, on inclut dans la thérapie le processus de préparation pour le défi sportif.
Mmh.
Puis le 14 avril, on a fait une pratique générale où est-ce qu'on a rencontré tous les jeunes pour qu'ils se voient au moins une fois avant le défi, puis là, on a fait la pratique générale. Fait que là, ils étaient déjà fébriles à faire cette compétition-là, puis ils étaient déjà très, très anxieux et nerveux positivement,
oui,
à participer pour jeudi et mardi cette semaine.
Parce que sinon, si je comprends bien, ce sont des rencontres individuelles avec le jeune.
Oui, oui,
okay,
parce que nous, ici, les thérapies se font individuellement, donc c'est rare qu'on puisse regrouper les jeunes ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une pratique générale au moins une fois pour qu'ils puissent se rencontrer. Les parents se rencontrent aussi, donc ça fait un bel esprit d'équipe avant de commencer.
Oui, parce que ça aussi, ça favorise le plaisir de participer au défi, toute cette question d'esprit d'équipe.
Effectivement, parce que les jeunes ont la plupart jamais fait de sport en dehors de l'éducation physique ou en dehors de leur famille. Donc, c'est un sport, quand on y va avec le défi, qui leur appartient. Donc,
mm-hmm,
ils sont fiers de ça, puis de montrer aux autres élèves de la classe ou aux autres membres de leur famille qu'ils sont capables eux aussi de faire du sport à leur manière.
Justement, comment ça se passe avec un jeune qui n'a jamais participé au défi sportif? Est-ce que la préparation, l'approche se fait différemment?
Bien, la plupart du temps, quand on leur parle au début, ils sont souvent négatifs à participer parce qu'ils connaissent pas ça. Ils n'ont jamais vécu cet esprit d'équipe et cet esprit de sport. Donc, ils sont un petit peu, puis c'est souvent des jeunes qui sont plus retirés, un petit peu moins extravertis. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un petit vidéo, on leur montre ça, on leur parle là, comment ça va se passer, qu'ils sont bien encadrés, puis que nous, on va être là, mais c'est quand même un peu impressionnant pour les jeunes qui ont jamais participé. Quand c'est fait une fois, après ça, ils veulent tous revenir.
Oui. Est-ce que vous entendez au préalable, Manon, des phrases comme « Ah, oh, moi, je suis pas capable, je ne peux pas faire ça. »
Ah, bien ça, c'est très, très fréquent.
Oui.
Ils disent « Ah, oh, je serais pas capable. » Mais là, quand je le montre, la vidéo, que différents jeunes, il y en a en marchette, en fauteuil, il y en a des debout, en tricycle, à ce moment-là, ils se rendent compte que « Ah oh, oui, c'est bon pour moi, je vais être capable de faire ça.
Mm-hmm. »
Puis ça les motive à vouloir se réaliser là-dedans puis à vouloir se dépasser.
Oui. Le premier obstacle, donc, c'est cette crainte de ne pas être à la hauteur.
Oui, c'est ça. Puis aussi, des fois, le parent, il a besoin d'être motivé aussi, de dire « Ah oui, ton garçon ou ta fille est capable de faire ça, là. C'est pas... C'est pour lui, cette compétition-là. Ça a été monté pour lui, puis c'est vraiment bon pour
ouais,
toute la
famille. C'est à lui qu'on a pensé, justement. On commence quand? Parce que vous parlez au départ, bon, on les informe sur c'est quoi le défi. Il y a aussi toute l'étape de faire croire que c'est possible pour nous. Ça commence quand? On commence quand à semer la graine, Manon?
Bien, on commence... des fois, on commence à la mi-automne. Là, on en parle.
Oui.
On en parle déjà, on commence à voir si l'enfant est intéressé, si jamais, oh, il est moyennement motivé. Bien là, on a quand même quelques mois pour tenter d'augmenter la motivation à venir participer, là. Mais habituellement, quand ça dit oui, c'est vraiment optimal.
Oui. On parle de plus en plus, et c'est une excellente chose, de saines habitudes de vie. D'ailleurs, la ministre Charlebois a dans son mandat d'émettre une politique en ce sens. Est-ce que vous croyez, Manon, que la participation aux défis sportifs peut entraîner peut-être l'adoption de meilleures habitudes de vie par la suite?
Mais c'est ce qu'on espère, en fait, là, que parce qu'il y a beaucoup de parents, puis il y en a beaucoup qui me le disent aussi, que pour eux, le sport, ça faisait pas partie de leur habitude de vie régulière. Puis moi, en étant très sportive et impliquée dans les défis sportifs depuis plusieurs années, j'essaie de les contaminer le plus possible dans mon mandat de physiothérapeute et porteuse de bonnes habitudes de vie. Puis effectivement, quand on commence au moins à faire du sport en bas âge, peu importe le handicap ou l'état du jeune, ben ça permet après ça d'avoir des bonnes habitudes pour que par la suite, il soit en meilleure santé puis qu'il y ait moins de problèmes médicaux.
Oui. Et puis, le sport, c'est un tout. Évidemment, ça favorise la santé physique, mais votre vision de la chose, Manon, c'est que ça favorise également la santé psychologique.
Ah oui, positivement, parce que ben pour n'importe qui, c'est n'importe qui fait du sport, c'est sûr que ça aide au niveau de la santé physique et psychologique. Parce qu'on a noté dans les études là, que ça diminuait la dépression, l'anxiété, puis ça améliore au niveau de l'image corporelle. Parce que là, s'il s'améliore au niveau du sport, il augmente ses capacités motrices. Fait qu'à ce moment-là, il est capable d'être plus autonome dans ses habitudes de vie pour être capable de se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir. Donc, ça va au-delà des aptitudes dans le sport. Ça les aide même à être plus autonomes dans les habitudes de vie.
Et également de favoriser une meilleure confiance en soi. On en parlait tout à l'heure.
Oui, bien c'est ça. Un adulte ou un enfant qui est plus autonome, ça augmente la confiance, l'estime de soi parce qu'il se rend compte qu'il est capable de le faire. Puis c'est sûr que ça augmente le réseau social, l'isolement. Puis ils ont tout le temps un sentiment de dépassement, de réalisation qu'ils n'ont pas s'ils font peu de sport.
Je vais revenir un petit peu aux parents parce que vous disiez qu'en parallèle, il faut également sensibiliser les parents, les familles des jeunes que vous côtoyez, Manon. Est-ce que le défi va changer également les habitudes des familles en leur donnant envie de bouger, d'être plus actifs?
Bien, en fait, en premier lieu, ça change la perception de leur enfant. Souvent, ils voient leur enfant comme un enfant avec un handicap, mais ils ne voient pas que cet enfant-là peut aussi se réaliser dans différentes activités sportives adaptées. Donc, le premier cheminement du parent, c'est de voir que son enfant, même s'il a des limitations fonctionnelles, il est capable de réaliser certains sports, certaines activités qu'il ne croyait pas être possibles. Fait que le début, c'est vraiment de la première étape. Fait que quand le parent, avec sa famille, souvent, il amène oncle, tante, grand-père, grand-mère, ils s'en vont au défi sportif, puis là, ils voient que leur enfant, wow, est capable de faire ça, puis qu'il est même bon. Puis après ça, ils vont essayer des différents sports adaptés qu'il y a au deuxième étage, dans Claude Robillard. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent essayer différents sports adaptés, puis là, ils voient l'intérêt du jeune à en faire, puis à participer. Fait que déjà, c'est une bonne sensibilisation de débuter, puis après, ben ça contamine la famille, fait que c'est positif.
Oui. Je veux revenir aux saines habitudes de vie. Vous vous disiez une accompagnatrice, un mentor, un petit peu. C'est votre rôle, du moins, de semer ces saines habitudes de vie-là. Concrètement, comment on peut le faire?
C'est sûr que c'est d'en parler, puis de sensibiliser les parents, la famille, puis même au niveau de l'éducation physique à l'école, parce que nos jeunes ici au Bouclier, ils sont intégrés dans les classes régulières, puis souvent, faut que le prof d'éducation physique adapte l'enseignement et les exigences, parce que le jeune n'est pas toujours capable de faire ce qui est demandé. Donc, en premier lieu, il faut vraiment que dans les écoles, ils soient sensibilisés à intégrer les jeunes dans les cours d'éducation physique, parce qu'ils sont souvent exclus ou marginalisés. Là. Fait qu'il faut vraiment avoir une sensibilisation importante auprès d'eux.
Oui, et de tous les acteurs qui évoluent auprès de ces jeunes.
Oui, effectivement. Là, on parle de la famille, de l'école, puis même au niveau communautaire.
Oui, des loisirs, voilà. Ouais. Est-ce que c'est les sujets que vous abordez, parce que je sais que vous êtes aussi conférencière, Manon, vous parlez de ça dans le cadre de vos conférences?
Bien, c'est justement, oui, quand on fait les conférences, c'est avec le Comité paralympique canadien. Il y avait des conférences de montée, justement, pour sensibiliser les gens sur les bonnes habitudes de vie pour les personnes avec des limitations fonctionnelles. Donc, moi, personnellement, personnellement, c'était avec des enseignants en éducation physique, là, primaire, secondaire, que j'allais le faire pour faire la promotion de l'inclusion dans les cours d'éducation physique, pour minimiser le déconditionnement et la perte motrice, là.
Oui, des conférences très utiles, très précieuses. On peut, est-ce que c'est ouvert pour le grand public? On peut y assister?
Bien là, il faut faire des demandes au Comité paralympique canadien. Là, c'est vraiment ciblé aux personnes clés là, qui ont un lien direct quand même avec les personnes qui ont un handicap, là. Mais il faudrait plus s'informer au niveau du Comité paralympique canadien.
Oui, parce que ça peut être utile pour bien les gens, comme on le disait, Manon.
Oui.
Également, bon, vous êtes physiothérapeute au Centre de réadaptation Le Bouclier de Terrebonne, mais également gérante de circuit, du circuit Gilles Villeneuve et des compétitions de paracyclisme et de para-athlétisme durant le défi. Vous vous impliquez depuis combien de temps, Manon, dans le cadre du défi sportif Altergo?
Oui, le défi sportif, je suis bénévole depuis 7 ans. Puis là, c'est ma 6e année en tant que gérante de site là, du circuit Gilles Villeneuve.
Et ça demande quel genre de responsabilité?
Comme c'est moi qui est gérante de site, c'est moi qui s'occupe des bénévoles, les assigner à leur endroit, de leur enseigner les tâches qu'ils ont à faire, s'assurer que le circuit est sécuritaire et fonctionnel. Puis c'est nous qui font aussi les contacts avec le parc Jean-Drapeau là, pour que ça se passe bien durant la journée.
Donc, vous êtes vraiment plongée dedans là, de par vos responsabilités, Manon.
Oui.
En terminant, les compétitions pour vos jeunes, ça se passe mercredi et jeudi.
C'est mardi. Mardi, c'est avec le volet secondaire. Puis le jeudi, c'est le volet primaire en athlétisme. Oui.
Et puis, comment sont vos jeunes là, en ce moment, à la veille de la première compétition?
Ils sont excités puis ils ont vraiment hâte là, que ça se passe, là, de mettre leur chandail du bouclier puis de pouvoir le porter fièrement pour pouvoir pour avoir du plaisir.
Oui, voilà. Puis ça crée, ce que j'entends, Manon, ça crée un beau sentiment d'appartenance également.
Oui, effectivement.
Donc, demain, tout le monde dans l'autobus, c'est ça, parents, jeunes et tous les accompagnateurs?
Nous, on n'a pas d'autobus. On est autonome dans les déplacements. C'est les parents qui assurent le déplacement, mais on se rejoint tout le monde à l'entrée sud du complexe Claude Robillard.
Donc, ça demande un bel engagement de bien des gens, tout
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Les parents sont très, très impliqués, puis on a besoin d'eux.
Donc, on le rappelle parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, Manon Charron, les visiteurs peuvent profiter gratuitement des compétitions sportives dans le cadre du défi sportif, autant sur les différents sites qu'au centre Claude Robillard. Et également, on peut rencontrer des athlètes sur les sites et on peut essayer les sports adaptés. C'est une occasion de côtoyer un petit peu la réalité occasionnée par le handicap, de vivre le handicap de façon différente. Vous encouragez, j'imagine, les gens à participer, à essayer ces sports adaptés.
Effectivement, parce que ça enlève la situation d'handicap. Les personnes qui font du sport adapté, ils n'ont plus d'handicap quand on les regarde. C'est des athlètes à part entière.
Voilà. www.défisportif.com. Manon Charron, je le rappelle, physiothérapeute au Centre de réadaptation Le Bouclier de Terrebonne. Un très beau, bon défi à vous et à tous vos jeunes.
Bien, merci beaucoup. C'est gentil.
Bye-bye.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Veto, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Heureuse de vous avoir avec nous en studio.
Ben, pareillement.
Deuxième participation en tant que chroniqueur assez bon pour la santé. Nils, aujourd'hui, on parle de visualisation. On est dans le cadre aussi d'événements sportifs, de préparation. Avec Manon Charron, on parlait de préparation des filles sportives pour les jeunes qui vivent en situation de handicap. Ben, la visualisation, c'est une façon de se préparer, que ce soit pour des athlètes de haut niveau, autant des athlètes de la relève.
Oui, en fait, il y a deux éléments à considérer pour atteindre n'importe quel type de performance optimale. Il y a l'action physique, c'est-à-dire l'entraînement ou la pratique physique de l'activité, et l'entraînement mental, donc l'imagerie mentale ou la visualisation. Et c'est cette combinaison qui offre le maximum de résultats. Et là, il faut définir la visualisation.
Oui.
Alors, les termes visualisation et imagerie mentale sont synonymes. Donc, on peut utiliser les deux termes. Et on parle de quoi? On parle de l'acte d'imaginer à la première personne divers scénarios avec le plus de sous-modalités possibles dans le but d'atteindre une performance. D'accord? Quand on parle de sous-modalités, on parle de différents sens. Donc, on y reviendra avec des exemples tantôt.
Oui. Est-ce que pour faire de la visualisation, de l'imagerie mentale, Nils, il faut absolument qu'il y ait eu une répétition physique? Au préalable?
Non, parce que on le sépare. Là, on parle vraiment d'un entraînement mental. Et là, c'est important de le définir au niveau scientifique, d'un point de vue des neurosciences. Lorsque nous fermons les yeux et que nous visualisions un objet, l'aire du cortex visuel primaire s'allume, comme si que nous étions réellement en train de voir cet objet. Et des recherches avec l'utilisation du EMG en électromyographe, avec des skieurs de haut niveau qui étaient branchés alors qu'ils s'imaginaient en action, ont également démontré que le simple fait de penser, de s'imaginer en train d'effectuer une action, envoie un courant électrique partant des neurones moteurs vers les muscles en lien avec ces actions. Et il en est de même avec les recherches en électroencéphalographe qui démontrent que l'activité électrique produite par le cerveau est identique selon que nous pensions à faire quelque chose ou que nous l'exécutions vraiment.
OK. Mais je reviens à ma question précédente. Pour s'imaginer, par exemple, faire une descente en ski ou encore pour une compétition en para-athlétisme, est-ce qu'il faut l'avoir fait de façon physique si on veut pouvoir se l'imaginer de façon vraiment réaliste en imagerie mentale ou en visualisation?
Ça aide.
OK.
Oui, ça aide. C'est certain que lorsqu'on a une compréhension de base du mouvement, on peut démarrer avec un entraînement de visualisation, ça va de soi.
OK. Mais pas nécessairement, c'est ce que j'entends, c'est ce que je retiens.
Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un entraînement supplémentaire qui se rajoute à l'entraînement physique.
Oui.
C'est ça qu'il faut retenir.
Donc, ça se complète bien, ces deux formes d'entraînement.
Ben, ce qui arrive, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et la réalité.
Oui.
D'accord? C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'on regarde un film, on regarde une comédie, on peut rire aux éclats, on peut voir un film d'horreur, on peut réagir en criant, mais logiquement, ce qui arrive, c'est qu'on regarde des images sur un écran avec du son, mais notre cerveau réagit en partie comme si c'était vrai, créant des émotions et relâchant des hormones dans notre corps.
Oui. Ça peut convenir à qui, la visualisation?
Tout le monde.
Et voilà.
Et ça, c'est le mot-clé, mais vraiment tout le monde. J'utilise souvent le terme performance, mais pour moi, la performance, c'est quoi? C'est vouloir obtenir un résultat X.
Oui.
Et que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau haute performance athlétique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit une animatrice derrière le micro qui veut performer dans son travail.
Pour ces jeunes, on défie sportif aussi.
Exactement, on en apparaît tantôt et ça peut être très applicable avec eux autres, bien sûr.
Oui. Est-ce que l'imagerie mentale, bon, là, on a parlé de performance ou de résultats optimaux, pourrait servir dans d'autres cas? Je parle ici, par exemple, à la gestion du stress. Est-ce que ça pourrait aider?
Ah, absolument. Parce qu'il y a plusieurs éléments en visualisation. Hein. Il y a, entre autres, le contrôle de la respiration qui se doit d'être fait comme première étape. Et la beauté de la visualisation, c'est que l'on crée un scénario, et le scénario que l'on veut. Si moi, je désire, en tant qu'athlète, visualiser une phase spécifique où je veux contrôler mon stress, eh bien, en le visualisant, je peux avoir un contrôle de mon corps.
Ouais.
OK? Donc, mais là, on rentre un peu plus loin, là. Parce que la visualisation,
c'est vaste et ça sert à beaucoup de choses.
On pourrait en parler pendant des heures, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi.
Ouais.
Hein. On peut rentrer en auto-hypnose, on peut rentrer en entraînement autogène. Donc là-dessus, c'est une forme très avancée de visualisation, d'imagerie mentale. Donc là, c'est dans la même famille, mais on pousse beaucoup plus loin.
Vous parliez de l'application d'utiliser plutôt l'imagerie mentale pour la guérison. Ça consiste à quoi, ça?
Ben, écoutez, prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident assez grave et qui se retrouve en chaise roulante et qui se doit de...
Qui est blessé, quoi.
Qui est blessé, mais qui est assez solidement. Ben, là-dedans, il y a deux aspects, selon cet exemple-là, qu'il faut considérer. Il y a la performance mobile au quotidien de cet homme en fauteuil roulant qui se doit d'effectuer, c'est-à-dire les déplacements, la nouvelle adaptation à son environnement, sortir du fauteuil pour s'asseoir, se laver, se déplacer, y revenir et ainsi de suite. Et il y a l'entraînement thérapeutique vers un objectif de guérison. Donc, réadaptation et physiothérapie. Donc, dans ces deux cas-là, la visualisation peut s'appliquer. Avec l'exemple pour un homme en fauteuil roulant désirant atteindre le but ultime de pouvoir remarcher, on peut cibler la chose avec les modalités suivantes. Donc, on rentre un peu plus en détail. Une visualisation très précise de tous les mouvements, musculation, étirement, stimulation, qu'il pratique en physiothérapie dans le but d'optimiser les séances de réadaptation. Okay. Donc, on parle d'une performance dans sa phase de guérison. Et de ça, on peut rajouter une visualisation qui, encore une fois, est très précise dans le but ultime de performer dans l'éventualité qui va remarcher un jour. Posture parfaite, mouvement du corps, et ainsi de suite. Et là, on y va vraiment de la tête aux pieds. Il faut être très, très détaillé en visualisation. Ça, c'est important, ça. Chaque muscle, chaque mouvement, le lever, ouais. le genou qui se plie, le talon qui se dépose au sol.
Ça, donc, c'est au d'une niveau grande physique. Précision. Il faudrait le faire combien de fois semaine?
Ah! 10 fois par jour, à tous les jours. Y a pas de, là-dessus, il faut le faire souvent, comme n'importe quel entraînement. Et c'est, au début, c'est quelque chose qui est très fatigant. Hein. Dire à quelqu'un, oui. Reste concentré et pense à tes trucs et il y a un effort physique à rester relâché, tranquille.
Oui, parce que les idées, les images fusent sans cesse. Il faut contrôler aussi le flux d'idées de la liste d'épicerie, aller reconduire l'enfant à la garderie.
Il faut vraiment cibler, être très concentré, faire le vide, se concentrer là-dessus. Mais dans ces mouvements, dans cette visualisation de mouvement, se rattache également de la visualisation en termes de sensations, okay. En termes des sens. Donc, je reprends mon exemple de ce monsieur qui veut remarcher. Il devrait rajouter à ça des éléments qui mettent un peu d'épée ça sur le plat hein, pour rehausser. Donc, le toucher, la sensation des pieds au contact du sol pendant la marche, le son, oui. Mm-hmm. Se remémorer le bruit des feuilles mortes lorsqu'on marche dessus pendant une promenade en automne. C'est l'odorat, l'utilisation de la mémoire olfactive qui est, soit dit en passant, la plus développée. Et donc, c'est tout ça qui s'y rajoute avec le sentiment de bonheur et qui devrait être attaché à cette performance-là.
Toujours bien intéressant. Comme vous dites, Niels, on aurait pu en parler probablement pendant une journée complète. On a plus de temps, mais vous en faites au quotidien de la visualisation.
J'en fais très souvent, oui.
Donc, peut-être une prochaine fois, faire une visualisation guidée. Ça serait chouette, ça. Ça serait assez intéressant.
Et ça serait même une étape de plus qui se rajouterait à... Voilà. Exactement, oui.
Merci, Niels Olivetto. Toujours un plaisir de vous avoir ici en studio avec nous.
Merci, Marianne.
Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, c'est Marianne Paquette. Au micro de demain, Chantal Petitclerc est avec nous en studio. Elle part de son rôle de chef de mission pour les Paralympiques de Rio et également du défi sportif, bien sûr. On se donne rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.